France Inter.
It's morning edition from NPR News.
NCT's Andy Burhausen.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Un jour dans le monde, c'est un jour de libération ce soir.
April 2nd is a liberating day for our country.
Le jour de la libération, c'est comme ça que Donald Trump a teasé les nouveaux droits de douane qu'il entend imposer à grande échelle. Une annonce qui est prévue donc ce soir, 22h heure de chez nous. Bonsoir Gilles Moëc.
Bonsoir.
Vous êtes chef économiste du groupe AXA et votre lourde tâche ce soir, c'est de nous aider à comprendre la stratégie économique de Donald Trump, dont on a le sentiment qu'elle fait mal à ceux qui se voient imposer des droits de douane parfois coercitifs, mais enfin qu'elle pèse aussi sur l'économie américaine. Pour comprendre, il faut passer probablement par la case Stephen Miran, qui est le chef des conseillers économiques de Trump. C'est quoi les accords de Mar-a-Lago qui apparemment ont été scellés dans la résidence de Trump, donc avant le début de la présidence?
Alors ils n'ont pas été scellés, mais c'est un objectif possible en tout cas d'une partie de l'entourage de Donald Trump. L'idée c'est que le système financier international jouerait contre les intérêts des États-Unis. Pourquoi? Parce que le dollar étant la devise de réserve dominante dans le monde, ça se traduit par une demande continue de dollars, donc une appréciation de la devise qui finit par jouer contre la compétitivité américaine, en particulier contre le secteur manufacturier américain. Et donc l'idée, ce serait d'obtenir des partenaires commerciaux des États-Unis un accord par lequel les banques centrales, par exemple, s'engageraient à faire remonter leur propre devise vis-à-vis du dollar. C'est l'un des objectifs possibles, pas le seul, mais possible de ce qui se passe aujourd'hui avec les tarifs.
Mais est-ce que ça veut dire que ce qu'il cherche, c'est à créer un nouveau système monétaire international, donc faire une croix sur les accords de Bretton Woods de 44? Est-ce qu'on en est là, ou est-ce que on a quelque chose de parallèle, ou on y met un peu de nuance?
Il n'est pas évident que ce soit la ligne absolue et majoritaire dans l'entourage de Donald Trump. C'est l'une des possibilités. Mais les États-Unis nous ont habitués dans l'histoire à quelques moments un peu compliqués dans leur gestion du dollar, dans leur gestion de leur relation au système monétaire international. Il ne faut pas oublier qu'en 1971, Richard Nixon, du jour au lendemain, après un week-end de trois jours à Camp David, a décidé de mettre fin à la conversion du dollar en or. Ça a été un choc à l'époque absolument terrible, et ça a donné lieu à une volatilité des monnaies extrêmement forte dans les années 70, donc ce ne serait pas la première fois que les Américains renverseraient la table en matière de relations monétaires internationales. Mais encore une fois, ça n'est qu'un des objectifs possibles qui est mis en avant. Certains membres de l'entourage de Donald Trump ont des visées qu'on pourrait appeler plus mercantilistes, entre guillemets, qui consisteraient simplement, entre guillemets, à mettre des tarifs pour protéger directement l'industrie américaine, non pas de manière coercitive, non pas pour obliger les partenaires commerciaux des Américains à par exemple réévaluer leur devise, mais comme une fin en soi. C'est aussi une possibilité.
Mais alors, si on est dans l'hypothèse de la réévaluation effectivement des monnaies de chacun, est-ce que c'est notre seule porte de sortie? Est-ce que c'est la seule qu'on ait? Et est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas?
D'abord, il y a une énorme difficulté pratique à mettre en place ce genre de choses. J'ai l'impression que derrière tout ça, il y a une certaine nostalgie pour les grands accords internationaux des années 80, l'accord du Plaza, l'accord du Louvre. Et à l'époque, on avait un système monétaire international qui était plus simple et qui était dominé par quelques banques centrales, avec des acteurs privés qui finalement jouaient un rôle relativement marginal par rapport à ces banques centrales. Aujourd'hui, le gros des flux financiers qui vont vers le dollar, qui vont vers le marché financier américain, ne viennent pas des banques centrales. C'est le résultat des décisions décentralisées d'une myriade d'investisseurs institutionnels. Et donc la difficulté sera déjà pratiquement de parvenir à mettre en place les conditions d'un tel accord. Puis deuxième élément, ça ne jouerait pas en faveur des intérêts des partenaires des États-Unis. Et je crois qu'il y a derrière tout cela un vrai problème dans la stratégie américaine, parce que finalement, ce qui a été fait par la Maison-Blanche, c'est de mettre un prix sur l'étiquette, c'est-à-dire de mettre un prix sur l'accès par les Européens ou par les Japonais au marché américain, ou un prix pour la protection militaire américaine.
Alors justement, parce que c'est ça qui est difficile à lire chez lui, en fait, c'est que tout se négocie finalement. Et donc effectivement, on négocie les droits d'homme contre une protection américaine, ou contre le fait d'installer un certain nombre d'entreprises, donc de fabrication sur le territoire américain. Le risque, est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de voir là, par exemple, c'est que ce donnant-donnant, on est déjà dit non, nous en Europe, quand par exemple on a en train d'augmenter notre propre défense militaire. Ça veut dire que le signal qu'on envoie, c'est qu'on peut aussi se passer des Américains. Donc, est-ce qu'on a le sentiment que notre réponse, pour l'instant, est pas du tout la réponse anticipée par les Américains ou pas?
Je pense que la réponse européenne a probablement surpris la Maison Blanche, parce qu'on a eu une réponse rapide. Très peu de dissidence, fondamentalement, au sein de l'Union européenne, à un discours assez musclé, à la fois sur les représailles directes, sur le commercial, et surtout, ce qui manquait vraiment, à mon sens, à savoir une stratégie de croissance. Lorsque le rapport de Mario Draghi est sorti l'année dernière, ce qui manquait, c'était le catalyse, l'aiguillon qui allait véritablement à nous amener à des vraies décisions.
Et donc, là, il nous l'a donné.
Il nous l'a donné, et l'Allemagne a été la première, et de manière extrêmement puissante, à offrir ces conditions de croissance.
Mais Gilles Mouette, moi ce que j'ai du mal à comprendre, c'est il réfléchit à quelle échéance, en fait, Donald Trump? Parce qu'on est dans le court terme, le moyen terme, le très long terme. Il réfléchit comment?
Je ne sais pas me mettre dans sa tête, mais j'imagine qu'il y a, plusieurs plans là. Il y a un plan à court-moyen terme qui consiste, et ça c'est très prégnant chez eux, qui consisterait vraiment à davantage protéger la population ouvrière américaine, qu'ils considèrent comme ayant été abandonnée par des décennies de politique libre-échangiste, pour aller vite. Et ça, c'est incarné, par exemple, par quelqu'un comme Jelly Vance, qui, dans ses ouvrages, a beaucoup parlé de cela. Donc ça, c'est un objectif clair, probablement de court-moyen terme. Et puis, il y a un objectif de plus long terme qui tient à cette conscience américaine qui est réelle d'une vraie fragilisation de leur position de leadership, de leur rivalité vis-à-vis de la Chine. Et donc ça, c'est un discours qui revient très souvent dans les cercles des dirigeants américains. Cette idée que le coût du maintien de l'empire, entre guillemets,
c'est
un coût important.
Donc moins une décision commerciale, finalement, contrairement aux apparences, en fait, on parle moins de commerce que de leadership mondial. C'est pas pareil, au fond.
Il y a aussi derrière une question de leadership mondial. Donc les deux plans ne sont pas d'ailleurs nécessairement toujours très compatibles, mais en tout cas, pour l'instant, ils trouvent leur compatibilité, leur cohérence dans cette espèce de, comment dire, d'agressivité assez revendiquée, en fait, de leur part, vis-à-vis des Européens et vis-à-vis de leurs alliés historiques.
Et revendiquer aussi le fait que ça peut tanguer à l'intérieur. On a bien entendu au début du mois de mars Trump dire, effectivement, ça risque de bumper un peu, ça ira mieux après. Il a dit, c'était très récemment, si les voitures sont plus chères aux États-Unis, moi je m'en fous, mais il l'a vraiment dit en ces termes-là. Donc ça, est-ce que ça nous parle de temps long quand il dit, je m'en fous, parce que à terme, de toute façon, au fond, mon héritage, ce sera celui-là. Est-ce qu'on en est là à imaginer ce qu'il lègue finalement dans l'économie américaine? Et donc, en faisant une croix, parce qu'après tout, il a 4 ans devant lui, donc il est assez tranquille.
Il a à la fois 4 ans devant lui et il a 2 ans de contrôle institutionnel plein avec la majorité au Congrès. Ça peut changer en 2026. Donc, il y a à la fois le temps long et en même temps une certaine urgence. Je crois que ça explique la rapidité, en fait, des annonces. Mais cette acceptation d'une douleur transitoire, elle est assez nouvelle. Pendant toute la campagne, on peut le comprendre, il n'y a pas eu du tout de référence à cette douleur transitoire. Et dans les premières semaines de son deuxième mandat, non plus. Mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu lors du premier mandat. Il y a eu, à mon avis, un contresens des marchés financiers en particulier, qui pensaient que l'administration américaine allait gouverner avec un œil sur le marché action. Or, lors du premier mandat de Donald Trump, les débuts ont été extrêmement positifs pour le marché. En revanche, lorsque la guerre commerciale contre la Chine s'est développée en 2018 et au début 2019, le marché s'est retourné aux États-Unis et il n'y a pas eu d'inflexion de la politique de Donald Trump. Donc je pense qu'il y a quelques invariants, entre guillemets, cette idée de la nécessité d'une protection de l'industrie américaine, et s'il y a douleur transitoire, eh bien comme vous le dites, tant pis.
Votre travail, Gilles Mouek, c'est d'anticiper et de bâtir des scénarios aussi sur les conséquences. D'abord, je me demandais honnêtement si c'était particulièrement difficile de faire ce travail-là maintenant. Est-ce que vous êtes même en mesure de bâtir des scénarios quand il y a tant de volatilité dans les décisions de Donald Trump, sérieusement? Là, par exemple, pour demain, mais chez vous, chez AXA, est-ce que vous avez 10 scénarios possibles? Est-ce que c'est à ça que ça ressemble?
En fait, ce qu'on attend, c'est ce fameux chiffre, the number, puisque c'est comme cela qu'il parle. On a des modèles, on n'est pas les seuls à avoir des modèles qui peuvent, avec un certain niveau de robustesse, nous dire à peu près ce à quoi on doit s'attendre en termes de perte de croissance en Europe en fonction d'un certain niveau de droits de douane. Ça n'est pas de la science exacte, ça va nous donner une possibilité, un range, comme on dit, sans nécessairement quelque chose de très précis. Mais oui, on a quand même des modèles de commerce international qui fonctionnent assez bien. Il n'y a rien de vraiment nouveau quelque part là-dedans. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a deux siècles de recherche économique en matière de relations économiques internationales. On sait à peu près gérer. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce fameux chiffre. Et on ne sait pas non plus quelle va être la réponse complète des Européens, des Japonais, des autres pays aux annonces de ce soir.
Mais est-ce que c'est le chiffre ou les chiffres de ceux qui seront touchés parce que il a ce qu'il appelle les dirty 15, donc les pays qu'il aime pas, les pays salauds, on est dedans nous, hein, parce que jusqu'à présent on s'est très mal comporté avec les États-Unis. Il y a aussi l'idée de tarifs douaniers qui seraient uniformes. Est-ce que ça a un sens d'avoir des tarifs douaniers uniformes, donc le même chiffre pour tout le monde, ça a vraiment un sens ça?
C'est assez difficile à décrypter parce que à l'origine, en tout cas, l'idée était de mettre en place des tarifs compensatoires, entre guillemets, ce qu'on appelle des tarifs réciproques, qui consistaient à dire on va regarder quels sont les tarifs levés sur les produits américains sur ces marchés d'exportation pour eux et on va imposer la même chose sur les importations qui nous viennent de ces pays. Ça, c'était le principe. Maintenant, c'est extraordinairement compliqué à mettre en œuvre. C'est administrativement extrêmement compliqué, donc je sens qu'au sein de l'administration américaine, il y a des poussées pour arriver à quelque chose qui soit probablement plus simple à mettre en œuvre. Mais on ne sait pas non plus si le chiffre qui sortira ce soir, on se doute que le chiffre qui sortira ce soir ne sera pas nécessairement le chiffre final. Parce que ce qui a été dit de manière très explicite par la Maison-Blanche depuis le début, c'est que dans le cadre de ce rapport qui sort ce soir, de ces décisions de ce soir, il s'agit de démarrer une négociation. On est là dans l'approche transactionnelle habituelle et de l'autre côté, la réponse européenne sera aussi une réponse en termes de négociation. Donc au choc réel, entre guillemets, où on peut s'appuyer sur le chiffre du tarif, il faudra ajouter le coût de l'incertitude. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont face à une vraie incertitude en termes de localisation de leurs investissements parce qu'ils ne savent pas exactement quel type de tarif portera sur leur produit dans un mois, dans six mois, dans un an. Et ça, cette incertitude, elle va probablement se prolonger.
Mais est-ce que c'est pas ça qui est le plus contre-productif pour les Américains? Quelle est l'entreprise, même celle qui est très volontaire, qui a envie de s'installer même aujourd'hui aux États-Unis, sachant très bien que les chiffres peuvent bouger? Comme vous dites, c'est négociation, donc ça se fait au cas par cas. On a l'impression, c'est même pas de la négociation, j'ai le mot que c'est du marchand de tapis, en fait, qui est en train de se passer là. Est-ce que c'est ça qui se passe? Est-ce que c'est vraiment une négociation de marchand de tapis, au final?
Je pense que c'est plus compliqué que ça, parce qu'en tout cas, dans le cas européen, nous fonctionnons avec des règles institutionnelles assez claires. Et les Européens, en 2023, ont mis en place un instrument qu'on appelle l'instrument anti-coercition, qui est assez balisé. Il y aura d'abord examen par la Commission européenne des dégâts potentiels causés. Ouais. On passe ensuite au Conseil européen. Ensuite, on rentre explicitement dans une négociation avec les Américains. Donc oui, à un moment, ce sera extraordinairement précis et ça peut devenir d'ailleurs extraordinairement compliqué. Mais le coût, il est déjà là. Le coût est déjà là parce que si vous regardez aux États-Unis les indices de confiance des ménages, ils se dégradent maintenant de manière assez nette. Et au-delà de la dégradation du sentiment, parce qu'il pourrait y avoir dégradation du sentiment sans que cela ait un impact visible sur la consommation effective, mais là, depuis un mois, on a une consommation qui quand même est déjà en train de ralentir. Donc il y a un coût déjà visible à cette incertitude.
Mais est-ce que chez nous, et même chez nous en France, au-delà de ce qu'on sait déjà, de ce qui a déjà été impacté, dans quel secteur on fait la boule avant l'impact, sérieusement?
La France n'est pas, l'économie française n'a pas des caractéristiques qui la rendent nécessairement extrêmement sensible au premier rang des tarifs américains. Ça viendra plus tard, ça viendra probablement davantage à cause de notre intégration dans le marché européen, en particulier via le choc allemand. C'est là où probablement le choc sera le plus visible. Et encore une fois, il y a les tarifs américains, il y aura aussi probablement des mesures de rétorsion européenne, et c'est la résultante de ces deux forces qui comptera pour les décisions d'investissement des entreprises. On aura une partie de la réponse peut-être ce soir, on n'aura probablement pas du tout toute la réponse, il faudra probablement attendre assez longtemps.
Donc vous passez la nuit au bureau ou pas ?
Malheureusement, les crises économiques depuis le début de ma carrière sont assez, assez fréquentes, donc voilà, on gère.
Allez, Gilles Mouek, vous êtes le chef économiste du groupe AXA. Merci beaucoup de votre passage dans le Journal du Monde. La suite ce soir, ça se passe dans les Balkans. Réservoir, vous allez l'entendre au recrutement de la mafia. Pour aller ensemble jusqu'à 19h, il y a Kevin Dufresne sous les radars.
En Turquie, Muse vient d'annuler son concert. On verra que c'est lié au mouvement anti-Erdogan.
Le Monde à 18h50, c'est vous Franck Madvon. Bonsoir Franck.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. On verra comment un petit scrutin local dans le Wisconsin affaiblit l'administration Trump et l'un de ses champions, Elon Musk.
Le cinéma en VO, c'est Corinne Pellissier. Bonsoir Corinne.
Bonsoir, il fait partie des grands noms du cinéma social européen. À 82 ans, Mike Leigh sort un nouveau film, ça s'appelle Deux Sœurs et on vous le recommande.
Allez, à tout de suite les amis, le tour de la planète n'est pas fini, il passe par l'Alabama avec Early James, Go Down Swinging, c'est en playlist sur Inter.
Oh, I'm playing duck, duck, goose inside a chicken coop. My the fox and my throne. Am I the verb? Am I the noun? Did I fall in love with a villain? Someone who'd kill to make a living? Well, I'll never die. So let me go down swinging.
Reportage ce soir est à Pristina, au Kosovo, mais aussi dans tous les Balkans. Alors qu'en France aussi, on essaye de lutter contre le narcotrafic. Ici, il est en train de prendre une place considérable. Les réseaux balkaniques sont devenus des acteurs majeurs, notamment du trafic de cocaïne. Des groupes ultra-violents qui profitent des failles de leur société inégalitaire et corrompue pour recruter dans la jeunesse. La figure du trafiquant est même glamourisée, relayée quotidiennement dans la pop culture locale. Et en face, devant des autorités inactives, une société civile qui tente de se mobiliser pour lutter contre l'embrigadement des plus jeunes. Le reste, c'est Louis Seyé qui raconte.
La mise en scène est presque toujours la même. Entourés de femmes dénudées, les chanteurs brandissent de la drogue ou des pistolets automatiques au volant de voitures de sport rutilantes. À 24 ans, Andra Ibrahimi s'inquiète de l'influence de ses clips musicaux sur la jeunesse des Balkans. Elle travaille pour l'ONG macédonienne de défense des droits des femmes, Pléiade.
Ces derniers temps, il y a une glorification de plus en plus importante des criminels. Les chansons font la promotion de la violence, de l'exploitation des femmes, de la consommation consommation de drogue. Et tout ça a un très fort impact sur la jeunesse, et notamment sur les jeunes entre 10 et 15 ans qui n'ont pas encore développé leur esprit critique. C'est très inquiétant de voir qu'ils connaissent par cœur certains de ces textes.
Diffusés en boucle dans les bars et les clubs tendances de la région, ces clips totalisent souvent des dizaines de millions de vues dans des pays qui comptent à peine quelques millions d'habitants. La promotion de l'illégalité et de la violence n'est pas réservée au rap. C'est ce qu'a constaté Alexa Obradovic, un jeune activiste du Monténégro. On a fait faire des exercices à des groupes d'adolescents. Ils devaient trouver des chansons qui n'avaient pas de connotation négative. Que ce soit dans le hip-hop, le turbo-folk ou d'autres genres musicaux, ils ont eu d'énormes difficultés. Partout, des femmes représentées en objets sexuels, une valorisation de la consommation de substances illégales, des violences, etc., etc. Au-delà des clips musicaux, la glamourisation des criminels passe aussi par les films, les séries et certaines émissions télé. Des trafiquants multicondamnés y sont régulièrement invités et ils véhiculent avec eux l'image d'une vie facile remplie de consommation de produits de luxe et de voyages à Dubaï. Un mode de vie qui fait rêver dans des sociétés pauvres malmenées par la corruption et les inégalités économiques. Avec son ONG Vlora Youth Center, Ilaria Cella tente de détourner les jeunes des villages du sud de l'Albanie de l'emprise des réseaux criminels.
Ils voient tout ce qui brille, mais ils ne voient pas toute la réalité. La vie luxueuse dont se vantent les criminels n'est qu'une façade que leur organisation utilise pour mettre la main sur ces jeunes. La réalité, c'est qu'en rejoignant ces groupes, tu risques ta vie. La réalité, c'est que si tu veux un jour quitter cette vie criminelle, ce ne sera peut-être pas possible, car tu seras trop lié à ces groupes.
D'après les polices européennes et américaines, les groupes criminels originaires des Balkans seraient en pleine expansion, notamment dans le trafic de drogue. Après l'héroïne, ils contrôleraient aujourd'hui une grande partie du marché de la cocaïne, depuis les pays producteurs en Amérique du Sud jusqu'aux ports d'Anvers et de Rotterdam, mais aussi sa vente dans les grandes capitales du continent. Fationa Medini travaille pour l'initiative globale contre le crime organisé transnational.
Les Balkans sont un excellent lieu de recrutement pour les groupes criminels. Ils y trouvent quantité de jeunes qu'ils peuvent employer dans le trafic de drogue en Europe de l'Ouest ou en Amérique latine, partout où ils opèrent. Aujourd'hui, les formes de recrutement ont évolué et se font beaucoup en ligne. En tant que société civile, nous devons travailler avec cette jeunesse pour leur expliquer ce que veut dire une vie criminelle. Dans la plupart des cas, elle sera synonyme de prison, de problèmes, de difficultés financières et parfois de mort.
Réunis à Pristina le mois dernier, des dizaines d'acteurs de la société civile ont appelé les autorités à renforcer leur lutte contre le crime organisé et à les soutenir davantage dans leur travail de prévention auprès de la jeunesse.
Louis Seyer pour le reportage. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. C'est d'abord en Malaisie que nous sommes, Kevin, avec une colonne de flammes.
Image impressionnante hier à Puchong, en banlieue de la capitale Kuala Lumpur, un gigantesque champignon de feu, puis des flammes montant jusqu'à 500 mètres de hauteur en pleine ville. Il s'agit en fait d'un incendie lié à une fuite sur un gazoduc opéré par Petronas, la compagnie publique malaisienne. Au-delà du choc des images, il y a beaucoup de blessés. D'après l'agence de presse Bernama, 145 personnes ont été hospitalisées. Une centaine sont toujours prises en charge. Les autorités ne parlent pour l'instant que de blessés, aucun mort recensé. Beaucoup d'habitants du quartier étaient dehors pour célébrer l'Aïd, la fête musulmane qui marque la fin du Ramadan. En plus des flammes, le souffle de l'explosion initiale a endommagé plus de 300 logements. Le feu étant maintenant éteint, les enquêteurs sont sur le site pour tenter d'identifier la cause de cet accident.
Et nous sommes en Turquie, où un groupe de rock se retrouve pris malgré lui dans la contestation anti-Erdogan.
Ah oui, vous avez peut-être reconnu Muse, qui lundi a annoncé sur ses réseaux sociaux un concert le 11 juin à Istanbul. La billetterie était censée ouvrir demain. Sauf que dans les minutes qui ont suivi la publication sur Instagram, des dizaines de fans ont commenté pour dire que malgré tout l'amour qu'ils portent au groupe britannique, ils ne viendraient pas, appelant pour certains au boycott du concert. Et à l'instant, le groupe britannique annonce qu'il renonce renonce à se produire à Istanbul. Concert repoussé en 2026 afin de s'assurer que DBL ne soit pas impliqué. Je cite le message sur Instagram. DBL, c'est la société chargée d'organiser le concert, accusée en fait par le public de Muse de soutenir le président Recep Tayyip Erdogan, contre qui des centaines de milliers de Turcs se mobilisent depuis deux semaines. Et l'arrestation du maire d'Istanbul, son principal opposant, Ekrem İmamoğlu, le patron de DBL, a en effet accusé sur X les manifestants anti-Erdogan de trahison. Abdul Kadir Özkan dénonce des déclarations sorties de leur contexte. Il avait annoncé se retirer de tous les projets musicaux dans lesquels il était impliqué pour ne pas porter préjudice aux artistes. Quoi qu'il arrive, Muse a donc annulé son concert ce soir.
Et puis nous sommes en Italie où il n'y a plus de café.
Malheur dans un pays où il est si important, plus de café précisément à la mairie de Pieve di Soligo. 12 000 habitants, c'est en Vénétie. Décision radicale du maire Stefano Soldan. Il a fait retirer tous les distributeurs automatiques de boissons chaudes installés dans les bureaux municipaux ainsi qu'à la bibliothèque parce que les employés, selon lui, prenaient des pauses café trop longues au détriment de la qualité des services. L'édile assure avoir reçu de nombreuses plaintes de ses concitoyens qui disent avoir attendu de longues minutes parce que personne n'était présent pour prendre en charge leurs demandes, leurs démarches administratives. C'est un choix qui incombe malheureusement à tous les employés municipaux, même s'il ne concerne que quelques personnes, regrette le maire, qui invite ses équipes à aller prendre le café au bar sur leur temps de pause ou à ramener leur thermos. Les fonctionnaires, en tout cas, ont saisi les syndicats parce qu'ils ne sont pas contents.
Kevin Dufraîche, merci beaucoup. N'allez pas prendre un café, vous allez encore pas dormir, vous serez infernal demain.
Vous partez avec le Velvet Underground et Nico,
bien sûr, Sunday Morning, ça marche aussi le mercredi soir.
Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know.
Morning du Velvet Underground sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h50, c'est Franck Madvon.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Saint-Esse. Le 18-20.
Franck, aux États-Unis, premier revers électoral sérieux pour les Républicains. Une juge progressiste a donc été élue dans le Wisconsin, non dépend d'un candidat pro-Trump. Et ce soir, vous nous dites pourquoi ce scrutin local réveille les démocrates.
Oui, on n'a pas l'habitude de s'attarder sur l'élection d'un juge et une cour suprême locale aux États-Unis. Mais ce scrutin dans le Wisconsin, un état du Nord très divisé, on le sait, entre républicains et démocrates, a passionné le pays. Soirée spéciale hier sur les chaînes d'info américaines. Alors pourquoi un tel intérêt ? D'abord parce que l'enjeu était important. La plus haute juridiction de l'État pouvait basculer d'un côté ou de l'autre, conservateur ou progressiste, avec des conséquences pour le droit à l'avortement au Wisconsin ou le redécoupage de la carte électorale. Des sièges d'élus nationaux se sont sans doute joués hier dans cet État-clé. Et surtout, seconde raison, Elon Musk a pesé de tout son poids dans la campagne. Il a injecté 25 millions de dollars, 25 millions, et tenu les premiers rôles pour soutenir le candidat conservateur.
Et donc, Musk a perdu.
Et c'est le premier enseignement du scrutin. Le candidat auquel il a apporté son soutien, Brad Schimmel, s'est incliné devant la progressiste Suzanne Crawford, qui va siéger 10 ans à la Cour suprême du Wisconsin. Elon Musk a dépensé tellement d'énergie et d'argent dans la campagne que le scrutin a été présenté par beaucoup comme un référendum pour ou contre l'homme d'affaires. Musk lui-même voyait dans ce vote une petite élection en apparence qui pourrait déterminer le destin de la civilisation occidentale, rien que ça. Il essuie donc une lourde défaite, il n'aura pas réussi à acheter l'élection et il devient un problème plus qu'une solution pour les Républicains.
Et c'est aussi un revers donc pour la Maison-Blanche.
Donald Trump en personne a soutenu aussi le candidat conservateur. Il n'a pas commenté le résultat d'ailleurs, il s'est juste félicité de l'adoption par référendum de l'obligation pour les électeurs du Wisconsin de présenter une pièce d'identité avec photo pour voter, mesure chère aux républicains. Mais Trump a bien encaissé une défaite dans la bataille pour la Cour suprême locale. Son soutien ne suffit pas, ne suffit plus dans un État qu'il a pourtant gagné à la présidentielle. Autre exemple, hier, les républicains ont remporté 2 législatives partielles en Floride, mais l'avance des vainqueurs est très inférieure à celle qu'avait Trump dans ces mêmes districts en novembre. La Maison-Blanche semble perdre un peu confiance. Elise Stefanik, élue du Congrès à New York, ne sera pas nommée comme prévu ambassadrice à l'ONU, décision récente prise jeudi. Un démocrate aurait pu en effet s'emparer de son siège.
Les démocrates donc retrouvent un peu de couleur ?
Oui, ils ont trouvé un maillon faible d'abord dans le camp d'en face. Elon Musk, donc beaucoup moins populaire que Trump. Sa croisade contre l'État fédéral suscite beaucoup de questions. D'après la presse américaine, ce soir, l'homme le plus riche du monde devrait même prendre du recul. Trump en a informé ses proches, selon le magazine Politico. Le président lui-même s'essouffle dans les sondages. Les Américains s'inquiètent d'une reprise de l'inflation, des droits de douane qui seront détaillés tout à l'heure, vous en parliez avec votre invité, d'une possible récession en 2025. Alors l'opposition démocrate reste convalescente, il lui manque une incarnation, un vrai projet, mais elle bouge encore, se montre prête au combat. La preuve par l'exemple, l'élu Cory Booker a battu hier le record du plus long discours au Sénat. Il a vitupéré contre Trump pendant plus de 25 heures, une performance à la fois inutile, extraordinaire et symbolique pour galvaniser son camp.
Franck Madvon, merci beaucoup. À demain, Franck. Le cinéma en VO, c'est le mercredi, donc c'est maintenant. C'est Corinne Pellissier.
Moteur.
France Inter.
And the Oscar goes to...
Un jour dans le monde.
People can't stand them cheerful grinning.
Are you gonna purchase this sofa?
Are you gonna buy it?
No, I'm not. I don't want to take your DNA home with me.
Il a contribué, Corinne, avec les frères Dardenne, avec Ken Loach, à renouveler le cinéma social européen dans les années 90, auteur d'une vingtaine de films. Le cinéaste britannique Mike Lee, 82 ans, est de retour au cinéma avec un nouveau film, Hard Truth, 2 sœurs en français au cinéma ce mercredi, accompagné d'une rétrospective à la Cinémathèque, et c'est l'occasion de se plonger dans son univers singulier, souvent grave mais jamais pesant.
C'est vrai, les films de Mike Lee démarrent souvent à la manière d'une comédie pour nous raconter dans l'Angleterre d'hier ou d'aujourd'hui les drames intimes de personnes ordinaires, issues souvent de milieux sociaux défavorisés, de classes moyennes, des personnages souvent confrontés à la solitude comme Pansy aujourd'hui, incarnée par la comédienne Marianne Jean-Baptiste, qui pleure dans le film la disparition de sa mère et ne parvient plus à communiquer avec personne, ni avec son mari, ni avec son fils ou ni avec sa sœur qui voudrait bien l'aider à expulser cette colère qu'elle a en elle et dont tout le monde, absolument tout le monde profite dès le saut du lit, tous les jours, au téléphone, au moment de faire les courses, sur le parking du supermarché, dans la file d'attente à la caisse. Pansy n'est pas contente, elle veut que le monde entier soit au courant. C'est un personnage qui peut être un peu rugueux, un peu énervant, mais elle est touchante, remplie de cette humanité qui traverse depuis 50 ans tout le cinéma de Mike Lee, qui retrouve ici Marianne Jean-Baptiste avec laquelle il avait remporté une Palme d'Or à Cannes en 96 avec le film Secret Hearts and Lies. C'est une nouvelle fois un rôle en or pour la comédienne, avec beaucoup de monologues, beaucoup de punchlines. Ils ont travaillé ensemble pendant plusieurs semaines avant de mettre en route le tournage. C'est ce qu'on appelle en quelque sorte la méthode Mike Lee. Partir comme un peintre d'une toile blanche, avancer en équipe. Il nous raconte comment ça s'est passé sur ce film de sœurs.
Well, the first job was to say, let's make a film with Marianne Jean-Baptiste.
La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que je voulais faire un film avec Marianne Jean-Baptiste. Parce que je fais d'abord mon casting, puis je trouve mes personnages avec mes acteurs, puis on trouve le film qu'on veut faire. Pour ce film, on s'est donné 14 semaines de travail avant même qu'on soit devant la caméra. Nous avons trouvé ensemble le passé de chaque personnage. On a fait des recherches. On a trouvé petit à petit ces personnages et on a trouvé le film. Et comme toujours, je découvre le film en le faisant. C'est un cheminement avec l'équipe, avec les comédiens, mais aussi avec l'équipe technique. Scène par scène, plan par plan, décor après décor, on recommence les choses, on recommence à répéter, on recommence à trouver des choses. Jamais je n'écris un mot de scénario, jamais je n'arrive avec quelque chose qui soit écrit. Mais nous obtenons collectivement une écriture par l'improvisation.
Alors Corinne, pour tous ceux qui ne connaissent pas son cinéma, vous avez cité Secrets et mensonges, il faut voir Naked, il faut voir Another Day, Vera Drake, qui sont montrés en ce moment à la Cinémathèque française, c'est à Paris, dans le cadre d'une grande rétrospective qui nous aide aussi à mieux comprendre le monde dans lequel on vit.
Il a souvent dressé le portrait de personnages sombres, désabusés. Le cinéma de Mike Lee, c'est les gens, c'est un humaniste, la vie, l'humour, le temps qui passe. Dans ce film dont on parle aujourd'hui, le grand sujet, c'est le deuil, des sujets toujours composés autour d'une vision à très social naturaliste de l'Angleterre, avec des personnages qui se bagarrent dans un pays où le chômage, le racisme, le Brexit, le Covid et les effets du libéralisme ont rendu le quotidien difficile. Le résultat est souvent grave, mais abordé souvent avec une belle dose d'humour. Même si en regardant le monde aujourd'hui, Mike Lee, à 82 ans, n'a plus tellement envie de rigoler. Dans son film, comme dans la vie, il serait temps que les gens, selon lui, apprennent à trouver un moyen de se parler.
All the problems of the world boil down to people's inability to communicate, to understand each other, to listen to each other, to share.
Au final, on peut dire qu'effectivement, tous les problèmes du monde viennent de la même chose, le manque de compréhension, le manque d'écoute, le manque de partage. Le Brexit, c'est dans l'histoire du monde la décision la plus stupide, la plus ridicule, la plus irresponsable. Et chaque jour, nous en souffrons encore, au quotidien, tous les Anglais. Et bien sûr, je pense qu'on devrait revenir en Europe, etc. Mais il n'y a pas en Grande-Bretagne de politique qui ait le courage et l'imagination de faire ce retour.
But we're now at this moment in a world where nobody's thinking in terms of the state of England.
Mais personne ne pense à l'Angleterre. Tout le monde s'en fout de l'Angleterre. Tout le monde s'inquiète du monde. Et le monde, il est tombé dans une crise. Absolument sans précédent. On pense plus à l'Angleterre isolée, on pense à l'Europe, certainement. Et mais de penser au monde, ça ne peut que nous faire plus peur chaque jour.
Mike Lee, son nouveau film donc sur les écrans ce mercredi qui s'appelle Deux Sœurs. Corinne Pellissier, merci beaucoup. À mercredi prochain.